Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Anne-Julie Roy, elle nous parle de la Maison grise de Montréal et du Salon des ressources en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, la douance. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres, sa chronique « Simplifions-nous la vie ». On commence en chanson avec Julien Doré, la chanson s'intitule « Les démons de minuit ». Bienvenue à Folie douce.
Les fantômes de l'ennui soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce.
J'accueille maintenant mon invitée, Mme Anne-Julie Roy. Bonjour Anne-Julie, bienvenue
Bonjour.
À l'émission.
Bonjour, merci.
Bonjour, bienvenue et merci d'être là. On va parler ensemble de plusieurs sujets. Tu es directrice des services externes à la Maison Grise de Montréal, un organisme connu depuis longtemps. On va apprendre à connaître ce que c'est. Puis on va parler aussi du Salon des ressources en santé mentale qui revient tous les deux ans depuis de nombreuses années. Donc, comment tu pourrais nous présenter toi-même? En fait, je pense que tu œuvres dans le domaine de la santé mentale depuis quand même longtemps.
Oui, en fait, moi, je suis arrivée à la Maison Grise en 2001. Donc, ça fait déjà plusieurs années.
Ouais, plus de 20 ans.
Oui, je suis arrivée en stage à la Maison Grise comme intervenante psychosociale. Moi, j'ai étudié en travail social.
OK.
Puis voilà, j'ai travaillé comme intervenante psychosociale pendant plusieurs années. Maintenant, je suis directrice des services à l'externe. Et la Maison Grise, qu'est-ce que c'est? Ben, ouais. C'est une maison d'hébergement pour femmes violentées. Donc, on travaille avec vraiment toutes les différentes formes de violence. La violence conjugale, la violence familiale, psychologique, financière, toutes les formes de violence. Et on travaille aussi avec tous les problèmes, pas les problématiques, mais tous les défis puis les enjeux qui sont causés par la violence que vivent nos femmes. Donc, on travaille avec elles. On travaille aussi avec leurs enfants. Donc, on offre de l'hébergement pour les femmes. On a deux maisons d'hébergement, une maison de première étape avec un séjour qui peut aller jusqu'à 2 ans, puis une maison de deuxième étape avec un séjour qui peut aller jusqu'à 5 ans. Puis,
ça a toujours été ça, la mission, en fait, depuis le début. J'avais toujours cru, puisque c'est la première fois qu'on reçoit dans nos années Folie douce. Je pense que j'ai souvent entendu parler de l'organisme, mais j'ai jamais eu personne. Donc, c'est la première fois. Puis, j'ai toujours pensé que c'était en rapport avec ce qu'on appelait autrefois les hôpitaux psychiatriques ou l'hôpital psychiatrique de l'Est, là, qu'on disait la Maison Grise. Là. On avait peur peut-être de nommer c'est un hôpital psychiatrique. Mais c'est pas ça. Là. C'était pas pour ça.
En fait, vous n'êtes pas le seul à mentionner ça, que ça fait référence à ça, mais c'est pas ça du tout. En fait, c'est le nom de la Maison Grise, c'est parce que ça a été fondé par les Sœurs Grises en 1990. C'est laïque là, depuis 1995, je pense, mais ça a été fondé par elles. Donc, c'est pour ça le nom de la Maison Grise.
Et il y a eu un besoin, on en parle encore plus, mais depuis toujours, il y a eu beaucoup de problématiques de femmes qui ont dû affronter la différentes formes de violence. Donc, ça existait aussi à l'époque, là, bien
Absolument.
Sûr.
Absolument. Et ce qui nous a aussi... C'est en fait toute cette montée de la violence-là qui nous a donné l'envie d'ouvrir une maison de deuxième étape, là, parce que la deuxième maison, elle a ouvert en novembre 2023.
Okay. Donc, deuxième étape, dans le sens, c'est des femmes qui sont quoi plus près de ressortir en société, est-ce que c'est ça?
Exact. Donc, nous, on accueille des femmes qui ont besoin quand même d'avoir un soutien sur une plus longue période. Donc, ils viennent chez nous dans notre première étape là, pour un séjour de 2 ans. Puis après, ils ont la possibilité d'intégrer la maison de deuxième étape pour un autre séjour de 5 ans. Parce que pour certaines femmes, la violence qu'elles ont vécue, ça a eu tellement d'impact qu'elles ont besoin de ce temps-là pour vraiment reprendre du pouvoir sur leur vie, puis retourner justement vivre de façon autonome, seule, et avoir tous les outils, en fait,
pour bien
vivre
fonctionner,
en toute sécurité.
Ouais.
Oui, c'est ça, pour bien fonctionner. Puis, ça leur prend ce temps-là aussi, des fois, pour se créer un filet de sécurité qui est vraiment nécessaire à leur rétablissement. Là.
On dirait, j'imagine que c'est le temps qui règle des choses. Le temps et l'aide, là. En fait, c'est pas juste le temps. Ça prend du temps à régler, mais ça prend aussi de l'intervention par les employés, j'imagine, qui y travaillent.
Ça prend beaucoup, beaucoup de soutien à plusieurs niveaux pour adresser toutes les problématiques qui sont liées à la violence, parce que ces femmes-là sont souvent, nous arrivent souvent avec des gros traumas. Quand tu vis dans une période de violence pendant 20, 30 ans, et tout ça, même quand c'est des courtes périodes, c'est extrêmement important d'avoir ce suivi-là. Et on accueille des femmes qui sont des fois issues de l'immigration, des femmes qui ont d'autres problématiques liées à ces enjeux-là. Donc, on doit les soutenir à travers tous leurs besoins et pas seulement la violence qu'elles ont vécue. Donc, ça devient c'est là le besoin, en fait, d'avoir quelque chose à un petit peu plus long terme.
Et comment vous gérez le fait que, parce que il y a énormément de besoins, puis le temps de séjour est long. Donc, évidemment, il y a sûrement des gens qui trouvent pas dans, trouvent pas d'espace pour... comment vous faites pour gérer ça? Ça doit être quand même un problème, là, d'une certaine façon.
Oui, c'était... en 2024, on a 491 demandes d'hébergement qu'on a dû refuser, justement. C'est vraiment un enjeu auquel on fait face, là, ici, au Québec, actuellement. Ouais. Et donc, la façon que nous, on a trouvé pour remédier à ça, c'est qu'on a développé vraiment nos services à l'externe, c'est-à-dire on offre des services pour les femmes de la communauté, donc des femmes qui ont le même type de problématiques, qui ont vécu des situations de violence et qui ont besoin de support parce que, justement, il n'y a plus de place en maison d'hébergement. Donc, on offre du suivi psychosocial. Pour ces femmes-là, on offre des groupes de mise en action. On a toutes sortes de programmes particuliers. Je dirais que c'est entre 400 à 700 femmes là, qui gravitent là, dans nos services externes à tous les ans. Donc, c'est cette façon-là peu, qu'on a trouvé pour pallier, justement, au manque de place en hébergement.
Ça reste un défi, puis on veut pas laisser une femme en danger, tu sais. Puis on sait que comment ça peut virer, des fois, puis c'est pas drôle, là. Il y a beaucoup de drames qu'on veut éviter.
Absolument.
Puis sinon, comment ça fonctionne quand les gens qui s'adressent à vous, est-ce qu'ils sont référés ou comment les femmes sont admises, en fait, dans vos services?
Bien, la plupart du temps, pour nos maisons d'hébergement, la plupart du temps, elles nous sont référées de d'autres maisons d'hébergement qui sont à plus court terme.
Okay.
Pour les services à l'externe, pour les femmes de la communauté, pour la plupart du temps, là, c'est d'autres organismes communautaires. Le réseau de la santé aussi nous réfère beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui, c'est ça. On parlait tantôt de... J'aimerais absolument en parler aussi, puis on reviendra à la Maison Grise, mais vous êtes en charge du Salon des ressources en santé mentale.
Oui.
On est qu'on a tutoyé, là, on va continuer.
Bien oui.
C'est un salon qu'on disait tantôt, que ça fait comme plusieurs années que ça existe. Est-ce qu'on peut en parler? Puis qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, absolument. Bien, peut-être pour vous mettre en contexte, c'est que depuis, je vous dirais, presque 10 ans maintenant, on participe là, assez activement à la table de concertation en santé mentale de l'Est de Montréal parce que, justement, on reçoit des femmes qui vivent des situations de violence et on veut pouvoir adresser aussi toutes les défis qui sont causés par cette violence-là. Donc, pour être capable de répondre à tous les besoins de nos femmes, on a besoin de nos partenaires. Donc, c'était vraiment un incontournable pour nous de faire partie de différentes tables de concertation. Donc, on participe à cette table-là depuis plusieurs années. Je me suis beaucoup impliquée. Je suis rendue à la coordination de cette table-là et l'animation aussi avec le réseau de la santé, le CIUSSS de l'Est. Et on organise à tous les 2 ans un salon des ressources en santé mentale. Le dernier a eu lieu en mai 2025. Ça a été vraiment une super réussite. C'est, je vous dirais, une quarantaine d'exposants qui tiennent un kiosque, en fait, pour présenter leurs services. C'est vraiment l'occasion pour les organismes de se rencontrer entre eux, de créer des liens, mais aussi de présenter leurs services à la communauté, aux gens, qu'on soit interpellés de proche ou de loin par la santé mentale. Des fois, c'est des proches aussi qu'on veut soutenir. Donc, c'est vraiment un salon qui regroupe, je vous dirais, presque tous les organismes qui travaillent de près ou de loin avec la santé mentale. Et cette année, en 2025, on a eu près de 500 visiteurs. Donc, ça a été vraiment une réussite. C'est un salon qui se donne à tous les 2 ans. Ça a été notre 10e édition. Donc, ça fait presque 20 ans que ça existe. Et il y en aura un...
En 2027.
Oui, exactement, au printemps 2027.
Est-ce que c'est une fausse perception ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'organismes qui sont situés dans l'est de Montréal? Peut-être à l'époque de l'hôpital Louis H. Lafontaine, il y a eu beaucoup dans la Désin, la fameuse Désin. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'ailleurs. Je ne sais pas si je me trompe.
Oui, l'est de Montréal est reconnu pour la présence de ces organismes communautaires en santé mentale, effectivement. Probablement, oui, à cause de la présence de l'Institut universitaire en santé mentale.
Et c'est dynamique et c'est varié, surtout, tu sais, tu parlais de la multitude d'organismes, puis il y en a qui font toutes sortes de services, tu sais, puis on les reçoit des fois à l'émission, on ne les reçoit pas tous, mais tu sais, d'avoir un endroit unique comme ça pour les connaître, c'est bien. Puis c'est important, la collaboration entre les organismes, tu sais, je pense.
Absolument, c'est nécessaire.
Ouais.
C'est nécessaire, et de plus en plus, hein, on reçoit... les organismes communautaires, sur la table de concertation, c'est ce qui ressort aussi, c'est que tous les organismes ont les mêmes enjeux, c'est que les gens qui font des demandes chez nous arrive avec une multitude de besoins et c'est de plus en plus complexe. Avant ça, bon, dans un organisme, par exemple, de réinsertion à l'emploi, les gens venaient pour se réinsérer à l'emploi. Maintenant, ils arrivent, oui, pour ça, mais beaucoup d'autres problématiques aussi à adresser chez ces personnes-là. Donc, on a besoin de travailler en partenariat de plus en plus. Là.
Tu disais tantôt que ça fait quand même plus de 20 ans que tu es dans le domaine, mais j'ai l'impression que ça s'est beaucoup nuancé avec les années. Tu sais, on recule à 20 ans, il me semble que aujourd'hui, la santé mentale, les organismes communautaires, j'ai l'impression que plus de nuances, plus de... Tu sais, les organismes se sont comme adaptés, puis je pense que c'est plus intéressant aussi, là, c'est plus dynamique de cette façon-là.
Ah oui. Oui, oui, absolument. Oui, parce qu'en fait, on travaille avec des humains. Et les humains ont une multitude de besoins. On ne peut pas juste dire, bien, nous, on va travailler en silo avec ce besoin-là. Puis toi, tu vas travailler en silo avec ce ouais. besoin-là. Ça ne fonctionne, ça fonctionne plus.
C'est ça, exactement. Ouais. Il nous reste à peu près 2 minutes. Anne-Julie, oui. Je pense que tu es aussi impliquée au niveau du CATAC. Puis, oui. On pourra en parler tant qu'à être
oui,
là.
Oui, parce ouais. que je suis formatrice aussi sur le trouble d'accumulation compulsive. La Maison Grise, on a développé là, depuis quelques années des services très spécialisés pour le TAC. Parce que chez notre clientèle, nos femmes qui venaient nous voir à l'externe, les femmes de la communauté, on voyait que c'était des symptômes, il y avait des symptômes de cette problématique-là. Donc, on a développé des services comme ça. On s'est beaucoup impliqué au niveau du CATAC, le Comité d'action pour le trouble d'accumulation compulsive. Moi, j'en suis la directrice aujourd'hui. Oui, c'est un comité, en fait, qui travaille à faire de la sensibilisation, qui travaille à faire connaître la problématique de TAC, qui est une problématique de santé mentale qui est encore très, très peu connue, sous-diagnostiquée et pour laquelle il y a très, très peu de services encore. Donc, on travaille à favoriser l'émergence de services et à faire de la sensibilisation à la population.
Il y a beaucoup de préjugés. Tu sais, on se dit souvent, ben, ramasse-toi, fais absolument. Du ménage, mais c'est pas aussi simple que ça. Tu sais, on a déjà parlé dans une autre émission, puis on pourra en reparler parce que c'est méconnu, puis c'est mal, c'est plutôt tabou même.
Absolument. Et à cause de cette stigmatisation-là, les gens ne sont pas portés à faire des demandes d'aide dans les services.
Alors qu'il y en a, il y a de l'aide, il y a des services.
Oui, il y en a peu, mais ça commence quand même de plus en plus là, à se développer. Ce qui est très positif.
Avant de terminer, on va donner les coordonnées, c'est la Maison Grise, comment on peut trouver le site web?
Ben, vous pouvez nous retrouver, oui, c'est au www.lamaisongrise.org. Sinon, on a une page Facebook. Moi, je suis aussi très, très active sur LinkedIn.
Ouais, pour avoir toutes les dernières nouvelles et tout.
Oui, absolument.
Puis au niveau du salon, il y a aussi une page Facebook, je pense, au niveau des salons des ressources en santé mentale.
Oui, la page Facebook, c'est Salon des ressources en santé mentale de l'Est,
Donc, on voit que c'est là, parce qu'il n'y en a pas 50.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis toutes les dates vont être annoncées et tout ça.
Oui, c'est ça, pour ça. Tenir au courant en direct. Exact. Merci beaucoup, Anne-Julie Roy. C'était fort intéressant de te recevoir. Puis bonne continuation avec la Maison Grise et avec aussi le prochain événement 2027 et tous les engagements. Donc, merci beaucoup pour tout et à la prochaine.
Merci, oui.
Au revoir.
À la prochaine. Bye-bye.
Je suis dans l'avion avec Charlotte Cardin. Si on s'écrase, ça parlera juste d'elle. Et vu que c'est ça le succès, j'ai fait Paris-Bruxelles dans la même chemin. Open up and yeah, yeah. It's gonna be good times. Entendu le kid à la radio Nova. Alors là, du coup, c'est quoi cette life? Don't get high on your own supply.
I wish you told me before. Sorry that I ran out of time. I got the best of you.
Got the best of me.
Wish you told me before. Oh, plus ça change, plus c'est pareil.
T'avais besoin d'espace comme une astronaute. Seul ghostwriter dans la vie qui se fait ghost. Bain full au club soda, seul au monde sous la douche. T'es bleu comme mes blue jeans plus high glowing. Encore 2020, ça part mal la journée. Montréal sans l'été. It's ok, Sonny, on va finir par la voir. De la ligne verte, j'écris cette chanson dans ma tête. Pendant que tu m'expliques que je n'écoute jamais. Oh no, till you're gone somewhere by the Frank Ocean. Je mets le mieux avant de me connaître. C'est la carotte devant elle. Till I'm up on Jimmy Fallon, gotta tell him.
I wish you
told me before. Sorry that I ran out of time. I got the best of you, got the rest of you.
Savoir de quoi on a l'air et qu'est-ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web au antenne.qc.ca, le antenne.qc.ca.
Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui ton sujet c'est le thème la douance qu'on va apprendre. Il y a beaucoup de gens qui savent c'est quoi et d'ailleurs on va passer ben, les deux segments l'espresso allongé de cette émission sur ce sujet-là et aussi à la prochaine émission. Je pense que tu vas aussi revenir avec le sujet.
Oui, alors, c'est en deux parties.
En deux parties, alors on va écouter ça avec intérêt.
Oui, alors c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet. Ben, en fait, c'est notre ancienne chroniqueuse Eve Cardinal qui m'a envoyé cet article. Ça s'appelle « Gérer la douance ». Et en fait, ça me fait penser à un bouquin qui était sorti en 1979 qui s'appelait « Le drame de l'enfant doué ». Ça avait été écrit par Mme Alice Miller. Oui, parce que les enfants qui sont surdoués peuvent vivre des drames, eux aussi, à l'école en particulier.
On entend souvent ça, que les jeunes sont souvent même dissipés, tu sais, ils sont plus turbulents parce qu'ils comprennent vite la matière, puis ils aimeraient ça aller plus vite,
parce
plus loin.
Ils sont en petit nombre, et ça peut aller trop lentement pour eux, ou ils peuvent se sentir à l'écart. Mais tu vas voir au fur et à mesure de l'article, c'est écrit par une dame... en fait, c'est la docteure Marianne Bélanger qui est psychologue et neuropsychologue et ça vient du site AcuDouance. C'est le site de l'Association québécoise pour la douance. Alors, cette docteure Marianne Bélanger nous dit « La douance est un mode de fonctionnement différent de la norme. Elle est caractérisée par un haut potentiel intellectuel, une intensité importante et une grande créativité. » La douance peut se manifester dans un ou plusieurs domaines tels qu'artistique, intellectuel, académique, leadership et autres. En explorant la littérature scientifique, on découvre que la douance prend différentes formes, qu'elle est tantôt un facteur de réussite, tantôt une source de difficulté. Parfois, elle est même une source de souffrance. On apprend qu'elle peut être confondue avec certains troubles et que des diagnostics erronés sont trop souvent posés, faute de connaissances. On constate que la douance peut être accompagnée de troubles ou de déficits qui la rendent plus difficile à détecter. Cette double exceptionnalité a parfois comme conséquence que ni la douance ni le trouble ne sont reconnus. Par exemple, le premier problème, c'est qu'on manque encore de consensus sur la terminologie. En France, une tendance vers le terme « précocité intellectuelle » semble émerger, mais on y retrouve aussi souvent le terme « surdouance ». Ici, au Québec, on tend plutôt vers « douance » et « haut potentiel intellectuel » qu'on abrège par « HP » ou parfois « HPI ». Et le deuxième problème pour comprendre la douance, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'intelligence. Alors, l'intelligence, c'est quoi? Eh bien, plusieurs chercheurs dans le monde se posent la question depuis des décennies et un débat scientifique est toujours présent. Y a-t-il un seul facteur d'intelligence générale qui est commun à tous? Et où l'intelligence a-t-elle de multiples facettes qui prédiront la réussite dans un domaine particulier? Unique ou multiple, les chercheurs s'entendent généralement sur le fait que l'intelligence, c'est notre capacité à penser, à réfléchir et à comprendre, et notre capacité à nous adapter, à agir et à créer. On sait que l'intelligence est biologique, donc présente dès notre naissance. Elle n'est pas causée par l'éducation ou l'environnement, même si elle entrera bien évidemment en interaction avec la façon dont nous serons élevés ou le milieu dans lequel nous nous épanouirons. En bref, l'intelligence est causée par des milliers de gènes, et nos gènes, ce sont nos parents qui nous les transmettent. Maintenant, comment fait-on pour savoir si quelqu'un est plus ou moins intelligent que les autres? Même si les débats existent sur la façon de mesurer l'intelligence, on sait que les tests de quotient intellectuel, qu'on appelle QI, mesurent bien ce qu'on entend généralement par intelligence. Mais quoique, il y a des débats là-dessus, je peux y revenir, sur les fameux tests de QI.
Oui, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça, mais c'est pas nécessairement... Ouais.
C'est pas si simple.
Non.
Mais avant de dire ce qu'est la douance, il est utile de comprendre ce qu'elle n'est pas. Alors, être surdoué, qu'est-ce que ce n'est pas? 68 % des gens sont dans la moyenne. Le rythme d'apprentissage et les objectifs scolaires sont pensés pour eux. À moins de faire face à des difficultés dans leur développement, ils réussiront à l'école et auront un fonctionnement normal à l'âge adulte. Et 13,5 % des gens ont une intelligence supérieure, soit au-dessus de la moyenne. Et un autre 13,5 % ont une intelligence inférieure, soit au-dessous de la moyenne. La recherche montre que les premiers auront plus de facilité à l'école grâce à leur rythme d'apprentissage plus rapide. En majorité, ce sont les enfants bons à l'école qui ont ensuite une vie professionnelle performante. Tandis que les seconds auront des difficultés d'apprentissage pour lesquels ils auront du soutien et un cheminement adapté. Pour finir, la majorité obtiendra un emploi et atteindra un bon niveau de vie. Au total, 95 % des gens autour de nous parviennent avec leurs forces et leurs faiblesses à s'adapter et à fonctionner dans la société à différents niveaux. Tout cela, ce n'est pas de la douance. Alors, je vais m'arrêter là-dessus.
Oui, et comme tel qu'on a indiqué plus tôt, on va poursuivre à l'espresso allongé sur le même sujet, la douance.
La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs.
Bonjour Catherine Stassin.
Bonjour Yvon.
Alors aujourd'hui, ta chronique « Simplifions-nous la vie ».
On va essayer de se simplifier la vie.
Oui.
Et parce qu'on remarque qui n'est pas dépassé ces jours-ci, qu'on soit jeune, étudiant, moins jeune, ado ou même retraité. Il suffit des fois de ne pas être assez organisé ou de se laisser dépasser pour que la vie devienne un peu trop compliquée. Donc, on va essayer de se donner des petits trucs là pour se simplifier la vie tout simplement. Et là, je me répète bien, mais c'est vraiment le mot qu'il faut choisir. Parce qu'on va essayer de se concentrer sur ce qui n'est pas superflu. Ça a l'air facile comme ça, mais il faut pas tomber non plus dans le minimalisme complètement fou. Donc, on va essayer vraiment de trouver un équilibre. Et déjà, on va essayer en commençant tout simplement par qui a pas essayé de réduire ses possessions. Quand je parle de possession, ça peut être en termes de garde-robe. Est-ce qu'on a trop de vêtements et du coup, eh bien... On porte des affaires et on se fait beaucoup de lessive parce qu'on se dit « Oh ben non, je vais changer, oh, j'en remets un autre aujourd'hui, etc. » Tandis que si on se dit « Ben dans le fond, j'ai 5 t-shirts, 5 chemises que j'aime bien, peut-être un t-shirt de sport, 2 t-shirts de sport, on va essayer peut-être de moins accumuler. » C'est difficile des fois.
Il faudrait des fois faire comme on fait en voyage, mais à la maison.
Oui.
Tu sais, de dire qu'on prévoit un certain temps, puis on a moins de choses, mais tu sais, c'est limité, mais c'est difficile à faire. Là.
C'est-à-dire que c'est comme si ça nous rassurait quelque part d'avoir plus de paires de chaussettes qu'on en a besoin.
Ouais.
Ou, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin de 2 ouvre-boîtes et que du coup, on va les laver les uns après les autres? Enfin, vous allez dire, on le lave de toute façon, mais je veux dire, il faut vraiment réfléchir aux objets usuels, ceux qui nous donnent du travail.
Ce que j'avais entendu aussi, c'est que souvent, quand on a trop de choses, ça alourdit notre quotidien. Tu sais, c'est-à-dire qu'on n'a pas ça ne nous laisse pas l'espace pour être plus relax ou plus...
Ces objets vont nous occuper.
Oui, ça tire.
Il y a des gens qui ont besoin de plein d'objets pour se sentir bien. Il leur faut toutes sortes de petites collections de toutes sortes. Pourquoi pas, hein? Chacun doit trouver comment il est bien. Mais c'est vrai que trop d'objets usuels, ça peut nous fatiguer, ça peut nous donner, comme j'ai dit, ou trop de lessive, ou nous en préoccuper. Tiens, où est-ce que je les ai mis? Est-ce qu'ils sont bien rangés? Est-ce que je dois les ressortir et les entretenir? Est-ce que, par exemple, j'ai besoin de deux vélos? Si j'ai deux vélos, une trottinette.
Ou les fameux ramasse-poussière qu'on appelle.
Les ramasse-poussière, les aussi, petits cadeaux.
C'est bon, les bibelots.
Oui, les bibelots, les souvenirs de...
Des fois, c'est...
République dominicaine ou de Jamaïque ou d'autres choses, mais qui ne sont pas tout à fait fonctionnelles. Mais des fois, ça nous fait juste du bien et ça nous permettra d'un petit peu simplifier notre vie parce que notre mental va être bien. Donc, il ne faut pas se fouetter. Il faut juste que chacun aille trouver ce qui fait que la vie est trop compliquée pour la personne.
On parlait souvent, on entend peut-être moins parler, mais la simplicité volontaire, là, ça avait du bon parce que c'était pas un vœu de pauvreté qu'on faisait. C'était plus de dire, ayons ce qu'on a besoin pour fonctionner, pour être heureux, puis être... Puis des fois, ça nous alourdit moins, là.
Mais c'est une bonne phrase, ça, qu'on pourrait mettre dans le contexte de cette chronique, parce que on peut, en effet, comme occidental, on a souvent beaucoup plus de choses dont on a besoin. Donc, on pourrait essayer de faire ça. Il y a d'autres trucs. Hein. Maintenant, il n'y a pas que les possessions. Il y a l'emploi du temps qui ne surcharge pas parce qu'il a dit oui, qu'il n'a pas osé dire non, ou simplement il a dit oui parce qu'il voulait. Mais le jour arrivant ou le deuxième jour arrivant, il se rend compte qu'il arrive avec la langue par terre à la maison et qu'il reste encore d'autres choses à faire. Donc, aussi prendre en ligne de compte son emploi du temps, garder son agenda pas trop loin et se dire, ben, qu'est-ce que j'ai à faire de le remettre de deux semaines sur barbecue avec des amis si vraiment je sens que c'est trop cette semaine, ou cette sortie cinéma avec ma meilleure pote. Si je ne suis pas bien et que ça me fait trop, ben je ne veux pas être bien avec ma meilleure amie non plus.
Ouais.
Donc, essayez vraiment un petit peu de se respecter dans cet ordre-là, de respecter l'ordre du temps, notre emploi du temps. Et c'est valable au travail aussi, ça. Des fois, on s'en met trop. Aujourd'hui, ça m'est arrivé et je me suis dit, mais dans le fond, cette personne est capable de faire une partie du travail avant de venir me voir. Et en fait, je lui ai dit verbalement, je lui ai dit, est-ce que, par exemple, tu pourrais, toi, déjà effectuer telle démarche? Et quand tu es prêt, tu m'envoies un courriel et à ce moment-là, descends me voir et on verra. Et la personne a été, oh, ben oui, bonne idée, etc. Et en fait, je me dis, c'est à moi aussi de dire, ben, en fait, les gens sont tout à fait capables de faire une partie du travail et ça fait partir leur travail aussi, quelquefois.
Ouais.
Donc, ça change notre emploi du temps et ça le simplifie aussi un petit peu. Alors... on l'a déjà dit dans d'autres chroniques, mais mon Dieu, ce que les réseaux sociaux nous encombrent d'informations, pourquoi est-ce qu'on ne s'en choisirait pas un seul? Eh oui, on va peut-être rater une nouvelle ailleurs, mais pourquoi est-ce qu'on... Allez, moi, je suis plus fan de tel réseau ou je choisis tel réseau parce que là, j'ai un groupe avec mes meilleurs amis ou le groupe de... Je suis fan de tondeuses électriques. Je ne sais pas, il y a un groupe extraordinaire et je le garde juste pour ça. D'accord? Donc, on peut faire un choix et se dire... Et on verra qu'au bout d'une semaine, deux semaines, et qu'on a bazardé un ou deux médias sociaux, ben, dans le fond, on est toujours là et tout va bien. Notre vie sociale continue.
Et il y a quelque chose à ranger dans les médias sociaux qui devient presque addictif. Là.
Ouais,
on est là,
faire,
on ne se rend pas compte, on vient de passer une heure, puis on se dit, bon, on vient de passer une heure à lire quoi, je ne sais pas. Là, est-ce qu'on a vraiment été chercher vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui nous font du bien? Pas sûr.
C'est ça. Et eux, ils ont tous des algorithmes qui prennent en compte tous les choix qu'on a fait, le temps qu'on a passé sur chaque image, etc. Et du coup, ils perfectionnent encore mieux. Et on est encore plus... On devient encore plus accoutumé. Et c'est encore plus accoutumant. Donc, à un moment donné... C'est pas le cas de tout le monde, hein, mais si on sent ça, il faut vraiment se prendre en charge et se dire, c'est moi qui dois le faire, il n'y a personne d'autre, surtout pas ces réseaux sociaux qui vont m'aider. Dans ce cas-là, c'est à moi de couper.
Ouais.
Alors, on peut aussi se faire des petites routines tout le simple. Hein. Au lieu de se dire, le matin, je me lève, oh mon Dieu, on pense à 36 000 choses avant de déjeuner ou en déjeunant, on pourrait juste se mettre une petite feuille sur le frigo ou sur son portable, ou on fait comme on veut, sur la table même du petit déjeuner, où il y a trois choses maximum qu'on va faire avant ou avant de partir au boulot. Okay. Un, lancer le séchoir. Deux, préparer une omelette pour le matin, j'en sais rien. Trois, se préparer une salade de fruits. Je veux dire, on se limite.
C'est déjà pas mal, on trois commence... choses.
Oui, c'est beaucoup.
Si on réalise trois choses chaque bien... matin, c'est oui, quand même pas bien... mal.
Voilà. Ouais. Mais en faisant ça et en se disant, oh, ben, tiens, le mardi, est-ce que ça m'aiderait pas si je faisais une petite lessive, le week-end va être plus allégé. On se met trois petites choses comme ça. Et ça va nous changer la vie. Ouais. Encore une fois, c'est à chacun de trouver le rythme qui lui convient. Et les gens qui ont beaucoup d'énergie, ils peuvent en faire cinq par jour.
Mais comme tu dis aussi, souvent, on se perd. Alors que si on marque clairement sur un papier quelque chose, des fois, ça va être cinq, trois choses.
Oui,
mais
il faut clarifier.
On va être sûr de les faire, tu sais, c'est ça, là.
C'est mieux. En tout cas, moi, j'ai besoin de ça, là. Ouais. Si je me dis juste, oui, je vais faire ça, ça ne va pas ou je fais les choses du surlendemain ou selon ce qui m'intéresse uniquement, évidemment.
Et on se rend compte que quand on écrit les choses, on oublie moins. Tu sais. En les écrivant, on a l'impression qu'on va le faire plus. Qu'on
et
écrit.
On les structure mieux aussi, ouais. Je trouve. On va mieux structurer la tâche, on va mieux la comprendre et voilà. Encore une autre chose qu'on peut faire, c'est essayer de se dire... qu'est-ce qui est l'essentiel? Parce qu'en devant organiser notre horaire, les tâches, en devant limiter les possessions, etc., tout ça nous oblige à nous concentrer sur notre essentiel et à penser aux choses importantes pour nous. Donc ça, c'est un bon exercice intellectuel qui va participer à cet allègement et à cette simplification de notre vie. Et on ne veut pas être perfectionniste non plus, totalement fou en se disant, là, ça va être la perfection cette semaine, etc. D'une semaine à l'autre, on peut ajuster et à un moment donné, on va trouver un meilleur rythme pour soi. On va se dire, là, de nouveau, la vie est agréable, je me suis simplifié la vie au quotidien. C'est ça le but, hein. Mm-hmm. C'est se simplifier la vie au quotidien et j'y arrive en observant telle ou telle action. Justement, maintenant, on va donner des petits trucs, en fait, des petites actions. Pour arriver, dans le fond, à avoir l'esprit plus clair. Parce que qu'est-ce que ça va nous faire, ces actions-là? C'est qu'on va avoir, en effet, l'esprit plus clair. On sera de nouveau libéré de ces tâches qui sont très matérielles. Parce qu'il n'y a rien à faire. On est un peu lié à ça. On est obligé de les faire, sinon la vie ne marche pas. Donc, on va se libérer et on va avoir de nouveau retrouvé un petit peu de légèreté d'esprit. Et ça va nous faire du bien aussi, de peut-être des fois rêvasser et ne rien faire. Alors, quand on parlait des possessions, etc., on se dit, oh, mais par quoi je commence? On peut se dire, dans le fond, qu'est-ce qui me tanne le plus quand je regarde quelle pièce chez moi? Mon entrée, je suis plus capable d'avoir. Ma chambre, je suis plus capable. Et là, on commence par la pièce qui nous fatigue un peu. On se dit, ben, là, je vais éliminer certains objets qui me donnent tant de travail. Peut-être que c'est dans la buanderie, peut-être que c'est dans le placard à balai, je ne sais pas. Mais on va trouver quelque chose qui va nous simplifier la vie. Mm-hmm. Et on commence idéalement par la pièce qui est la plus souffrante, entre guillemets, pour nous, si on est capable. Si on n'est pas capable, on peut commencer par une petite chose toute légère et se dire, ah, ça a marché, je peux trouver autre chose. Chacun trouve son rythme. On peut aussi, et ça, il existe plein d'outils maintenant pour automatiser des tâches. Les factures. Quel est le besoin de se préoccuper? Est-ce que j'ai payé ma carte? Est-ce que j'ai payé mon électricité? Si on a une voiture à payer, un loyer, des activités pour enfants, des abonnements quelconques, automatisons tout ça. D'accord, automatisons, c'est bien, mais prenons-nous quand même au moins deux fois par an pour vérifier si ces abonnements sont toujours réglos et que tout fonctionne bien.
Ou automatisons ou mettons-les à l'agenda, puis oublions-les jusqu'à temps qu'on...
Pour ceux qui aiment faire ça, pourquoi pas mettre à l'agenda
et
le samedi ou...
Tu mets ça à l'avance,
voilà.
Et quand tu arrives à la journée, tu dis, ben, oh, c'est vrai, j'ai ça à payer.
Ouais. Chacun fait comme il veut. Moi, je dois avouer que je trouve ça extraordinaire d'automatiser la facturation. Ouais. Moi, ça m'a allégé la vie, là.
Dans le sens qu'un prélèvement qui se fait automatiquement, par exemple, ou un paiement qui se fait automatiquement, là, par
exemple,
c'est ça?
Oui, ça, c'est vraiment...
Ouais.
Je trouve.
On peut l'oublier, là.
Mais oui, parce que dans le temps, on recevait les tout par papier, on oubliait, on le mettait sous un meuble, un bibelot, n'est-ce pas, plein de poussière. Et puis voilà, ça arrivait vite d'oublier une facture. Tandis que maintenant, il y a vraiment moyen de trouver des façons pour nous aider à automatiser les tâches. Aussi, si ça peut aider certains auditeurs, avoir une liste, par exemple sur Excel ou Word,
ouais,
où on a toujours une liste de courses de base. Comme ça, on n'a pas repensé à lait, œufs, pain, citron, orange, j'en sais rien, les trucs de base. Et on a cette liste toujours prête. Et oui, ben, donc quand on sait qu'il y a quelque chose qui manque, il ne va pas pouvoir rajouter dessus, mais on garde toujours un template avec la base. Et ça, ça permet de ne pas devoir s'exciter à se dire qu'est-ce que j'aurais oublié pour mes courses. Alors, donc aussi, il faut prioriser ces tâches. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Est-ce que mes courses alimentaires soient faites? Ben oui, je crois que là, c'est important.
Oui,
on ne passera pas la semaine, on ne sera pas à se faire des bons pique-niques, des lunchs, etc. Donc, c'est important de savoir prioriser pour, de nouveau, se donner la liberté et être un peu plus, avoir une vie plus simple.
Bien, merci beaucoup, Catherine. C'est effectivement, ça simplifie notre vie. C'est ce qu'on vise à faire. Alors, simplifions notre vie. Merci beaucoup pour cette chronique. Et puis, on aura des références, comme d'habitude, sur notre site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce, sous la chronique Simplifions-nous la vie. Merci, Catherine. Et
merci, Yvan.
À bientôt.
Au revoir.
Perdu dans la brume, je fais mon deuil, la journée va être brune. Je voudrais bien me lever, j'ai peine à m'asseoir. La tête qui tourne et puis un blanc de mémoire. Au moins je suis dans mon lit, je sais pas encore comment je me suis rendu ici, j'aimerais bien le savoir. J'ai quelques flashs la veille, on eut du fun pareil. J'avais plein de projets, fou comme un balai. Je me suis fait des amis que je reverrai jamais. Je me suis même mis de chum avec l'habitué du bar. On a eu plein du fun, on a bu du fort. Mais j'ai hâte que ce soit fini, que les montagnes soient parties. Je me dis que je boirai plus de ma vie, ni de Budweiser, ni de Daiquiri. Hangover. Hangover. C'est le lendemain de la veille, celui qui fesse d'en face. Le moment où je souhaite qu'il n'en reste pas trop de traces. Puis je me sens ben trop poche pour faire quelque chose. Je rêverais d'une slush ou ben d'un McDo. Puis la matinée s'étire jusqu'au soir. Et mettre un pied devant l'autre demande un peu trop d'effort. Donc j'en peux travailler, j'ai collé malade. Mal de cœur, j'ai rien mangé à part une banane. Je me sens mal de leur mentir, j'aime bien mes collègues. Mais je peux pas tout leur avouer, pas le choix de leur raconter des salades. Hangover. Hier c'était parfait, vraiment vraiment parfait. Y'en a pas de problème, après deux trois pichets. Ça reste très gravé, dans ma tête à jamais. Hier c'était parfait, vraiment vraiment parfait. Y'en a pas de problème, après deux trois pichets. Ça reste très gravé, dans ma tête à jamais. Si seulement je m'en souvenais. L'heure est au bilan, je me remets en question. Faut dire qu'assis dans le noir, les journées sont longues. Je devrais faire plus de sport, retrouver la forme. Lire des livres le soir, lâcher mon téléphone. Quelle est la solution qui me fera sortir de l'ombre? Qui me ferait voir la lumière avant que ma vie s'effondre? Peut-être arrêter de boire, triste résolution. Ça fait des belles histoires, mais j'ai toujours l'air con. Pendant que je regarde dans le miroir de ma vie et que je somnole entre les pertes de cartes, le vent souffle sur le temps gris. Juste assez pour que la machine reparte. Puis la gueule de bois part comme elle est venue. Les mauvais présages aussitôt disparus. Prise de conscience qui dure que quelques heures. Juste le temps que ça prend pour se remettre dans. Hangover.
De retour à l'émission Folie douce, leader en santé mentale depuis 1991.
Nous poursuivons maintenant au micro avec Pierre Laporte. Bonjour encore une fois, Pierre.
Re-salut.
Et merci de poursuivre sur ton sujet, ouais. À l'espresso allongé, qui est la douance.
Oui.
Ça, tu nous as déjà mis la table, puis il y a beaucoup de matériel encore à, ouais, à mentionner. Là.
Oui, la douance, il y a peut-être encore beaucoup de gens qui ignorent ce que c'est. En fait, ça veut dire les enfants, bien pas seulement que les enfants, en fait, mais ceux qui sont doués ou surdoués.
Parce que les adultes le demeurent, oui, souvent, là, puis oui, c'est ça.
Oui. Alors, c'est un article qui s'appelle simplement « Gérer la douance », écrit par la docteure Marianne Bélanger, qui est psychologue et neuropsychologue. Alors, cette dame nous disait que environ 2,5% des personnes ont une déficience intellectuelle. Et elle nous dit « Heureusement, la déficience est reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que par le ministère de l'Éducation, et je parle d'ici au Québec. En vertu de la loi sur les services de santé, les personnes qui ont une déficience bénéficient d'aides financières et techniques, de services publics spécialisés en réadaptation, ainsi que de classes et d'écoles adaptées. Bien entendu, cela non plus, ce n'est pas de la douance. Alors, être surdoué, qu'est-ce que c'est? Actuellement, on tend à définir comme ayant un haut potentiel intellectuel les individus avec un QI supérieur à 130, soit autour de 2,5% de la population. En France, plusieurs auteurs recommandent un seuil de 125, ce qui inclut plutôt 5% de la population. En résumé, un enfant surdoué est aussi éloigné et différent de la moyenne qu'un enfant avec une déficience. Il devient donc logique de croire que les enfants surdoués apprennent eux aussi différemment et que l'école n'est probablement pas adaptée à leurs besoins à tous. Il va sans dire que cette définition ne nous aide pas à dépister les jeunes surdoués dans votre classe ou dans votre famille. Mais heureusement, la douance, ce n'est pas juste une question de QI. La docteure Marianne Bélanger nous dit qu'à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, le quotient intellectuel reste plutôt stable pour le reste de notre vie. Il est certain que notre destinée n'est pas seulement déterminée par notre QI. Cependant, la recherche montre qu'il s'agit du facteur le plus important associé à la réussite scolaire et professionnelle, ainsi qu'au statut socio-économique d'une personne. Mais attention, certaines personnes précoces intellectuellement peuvent même obtenir des difficultés aux tests de QI traditionnels. Ça, c'est surprenant. Cependant, elles ont toutes habituellement des résultats très supérieurs à la moyenne des individus du même âge à certaines ou plusieurs tâches mesurant le QI. Par exemple, sur le raisonnement verbal, la capacité d'abstraction, etc. Mais maintenant, il y a deux profils de douance. La première, c'est la douance homogène, c'est-à-dire avec un développement cognitif harmonieux et une grande facilité à apprendre. C'est l'image plus typique qu'on peut se faire d'un enfant à haut potentiel, soit comme on dit HP. Là, je ne parle pas de sauce.
Non, non, c'est non, ça. Non. Ni de la compagnie. Les imprimantes, tu sais, HP.
Ouais, ben, je pense, ouais.
On parle de l'autre chose.
Oui, on parle, on s'éloigne un peu. Alors, la docteure Marianne Bélanger nous dit que la majorité de ces enfants réussissent assez bien à s'adapter. Ils sont toutefois très sensibles aux attentes des autres. Ils fonctionnent généralement bien à l'école, mais peuvent s'ennuyer et vivre de l'anxiété ainsi que des difficultés sociale, par exemple, de l'isolement et un sentiment d'être incompris. L'autre profil de la douance est celle qu'on appelle hétérogène, c'est-à-dire avec de grandes disparités entre leurs différentes capacités cognitives, ce qui peut générer des troubles d'apprentissage, des troubles moteurs ou des troubles de langage pouvant même masquer la douance. Ce profil est caractérisé par un cerveau qui pense constamment, une très grande créativité intuitive et une pensée qui rend la planification très difficile. Attachants et généreux, ces enfants sont souvent non conventionnels et hypersensibles. Leur réussite scolaire est très variable et dépend souvent de leur relation avec l'enseignant. Par ailleurs, nous dit le docteur Bélanger, d'autres particularités communes ont été documentées chez les surdoués, comme par exemple l'hypersensibilité sensorielle, l'hypersensibilité émotive, une très grande curiosité, un besoin viscéral de comprendre, un ennui profond et destructeur quand il manque de stimulation intellectuelle, un très fort sentiment d'être différent des autres, des façons d'apprendre très différentes des autres enfants de son âge et finalement une intolérance à sa perception d'injustice. On ne connaît pas la situation des élèves surdoués au Québec. En France, 43% des enfants HP n'obtiennent pas l'équivalent d'un diplôme d'études collégiales, équivalent au cégep. C'est quand même assez surprenant.
Ouais.
Dans sa brochure à l'intention des enseignants, l'organisme Haut Potentiel Québec, qui a pour mission de rassembler et diffuser les connaissances et les ressources en lien avec la douance intellectuelle, aussi appelée Haut Potentiel Intellectuel, révèle des statistiques fournies par l'Association française pour les enfants précoces qui montrent que les enfants surdoués réussissent bien à l'école primaire, mais qu'au milieu du secondaire, un tiers sont excellents, un tiers sont moyens et un tiers sont en échec, ce qui est inquiétant. On sait également que les surdoués, autant les enfants que les adolescents ou les adultes, ont une forte tendance à argumenter et donc à paraître opposants. Ils vivent souvent de l'anxiété sociale et présentent souvent une dépression existentielle. Mais pourquoi n'en parle-t-on pas plus? La douance est encore très taboue au Québec. Nous sommes plus de 10 ans en retard sur la France. Mais je m'arrête ici.
Là. Et il y aura des choses à comprendre encore dans la prochaine émission, comme on le disait. On va poursuivre sur le sujet. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet intéressant, la douance.
Alors voilà, il y a quelques temps, j'avais plus goût à rien. J'ai relé dans l'air abattu, je répétais tout va bien. Je mettais des plans, je lâchais des vues, j'oubliais les lendemains. Je fuyais les gens, une inconnue, mais j'avais besoin de quelqu'un. Pour te trouver, je suivais le vent comme rendu au chagrin. Désabusé, le cœur absent et dépourvu de soins. Ça faisait longtemps que je souriais plus, j'avais même vu ma fin. Mais je crois qu'avant j'étais perdu, t'es devenu mon chemin. Mais t'étais où toi? Pendant tout ce temps, comme je m'y attendais pas. Oh non. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le rêver ça, je vois encore toi et ton beau visage. Y'a plus personne, je suis sous mes draps, je me refais les images. Je m'illusionne du son de ta voix, j'en fais un long métrage. Y'a ta couronne qui t'attend là, même si j'ai pas assez l'âge. Tes mots résonnent même dans mes pas, je suis sur un nuage. Je suis un peu conne, je m'en remets pas, comme un long voyage. J'ai bu trop de rhum, mais à coup le pas, j'ai même perdu le langage. Tu sais, je frissonne depuis cette fois, en plus j'ai pas le chauffage. Mais t'étais où toi? Je connais pas ton nom, comme je m'y attendais pas. Oh non. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut. Je sais pas trop comment t'aborder, mais j'avoue que ça me fait un truc. Depuis tout à l'heure, je te regarde parler, alors je sais c'est un peu brut, mais j'ai envie de tout envoyer valser et qu'on parte loin, très loin. Je crois que j'ai même envie de t'embrasser et de recommencer demain après-demain. J'allais pas bien. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi et je m'y attendais pas. Un slow avant de partir, je dois t'avouer que tu m'attires. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi. Depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut.
C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio.
Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous hebdomadaire. Donc, Pierre, on va y aller avec la nomenclature des chansons. Oui. Tout d'abord, on a entendu la première chanson, Les démons de minuit.
De Julien Doré.
La deuxième chanson, Cardin.
De Clay and Friends avec Marilyn Léonard.
Dans la deuxième demi de l'émission, la chanson Hangover.
De Fred Dionne.
Et à l'instant, Puis t'as dansé avec moi.
De Hoshi.
Merci beaucoup pour ce choix musical et pour ton travail en régie.
Ben, merci bien, mon cher.
Et aussi, merci pour ton sujet, la douance à l'espresso et à l'espresso allongé qui sera poursuivi à la prochaine émission. Merci pour tout ça. Notre invité en début d'émission, Anne-Julie Roy, nous a parlé de la Maison Grise de Montréal et du Salon des ressources en santé mentale. Notre collaboratrice Catherine Stassin était aussi des nôtres. Sa chronique « Simplifions-nous la vie ». C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.